plus et approuvé.
Ça serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Répondez des rondes, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Harnache tes mots de traîneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Bonsoir, bienvenue. Merci à Positive Vibrations pour les bonnes vibes juste avant l'antenne. Ce soir, on va faire une émission un petit peu particulière. Ce soir, au lieu de vous lire un livre qu'on a déjà lu, on va vous lire un livre qu'on n'a pas encore lu. Je m'apprête à ouvrir les pages de ce livre, je ne l'ai pas encore découvert. Je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce qui vous attend non plus. Mais je le présenterai à la fin de l'émission et puis en espérant qu'on passe un bon moment ensemble. Sur le grand paquebot qui à minuit devait quitter New York à destination de Buenos Aires, régnait le va-et-vient habituel du dernier moment. Les passagers embarquaient, escortés d'une foule d'amis, des porteurs de télégrammes, la casquette sur l'oreille, jetaient des noms à travers les salons. On amenait des mâles et des fleurs. Des enfants curieux couraient du haut en bas du navire, pendant que l'orchestre accompagnait imperturbablement ce grand spectacle sur le pont. Un peu à l'écart du mouvement, je m'entretenais avec un ami sur le pont promenade lorsque deux ou trois éclairs jaillirent tout près de nous. Apparemment, un personnage de marque que les reporters interviewaient et photographiaient encore juste avant le départ. Mon compagnon regarda dans cette direction et sourit. « Vous avez à bord un oiseau rare, Gentovitch. » Et comme je n'avais pas vraiment l'air de comprendre ce qu'il voulait dire, il ajouta en guise d'explication « Mirko Gentovitch, le champion mondial des échecs. Il a traversé les États-Unis d'est en ouest, sortant vainqueur de tous les tournois, et maintenant, il s'en va cueillir de nouveaux lauriers en Argentine. » Je me souviens alors de ce jeune champion et de quelques particularités de sa fulgurante carrière. Mon ami, qui lisait les journaux mieux que moi, compléta mes souvenirs d'une quantité d'anecdotes. Il y avait environ un an, Gentovitch était devenu tout d'un coup l'égal des maîtres les plus célèbres de l'échiquier, comme Aljechin, Capablanca, Tartakower, Lasker ou Bogoljubov. Depuis qu'en 1922, Rejewski, le jeune prodige de 7 ans, s'était distingué au tournoi de New York, on n'avait vu personne d'aussi obscur attirer avec autant d'éclat l'attention du monde sur l'illustre confrérie des joueurs d'échecs. Car les facultés intellectuelles de Gentovitch n'eussent permis en aucune façon de lui prédire un brillant avenir. D'abord soutenu secret, le bruit courut bientôt que ce champion était incapable en privé d'écrire une phrase, même dans sa propre langue, sans faire des fautes d'orthographe et que, selon la raillerie d'un partenaire rageur, son inculture dans tous les domaines était universelle. Gentovitch était le fils d'un misérable batelier slave du Danube, dont la toute petite embarcation fut coulée une nuit par un vapeur chargé de blé. Son père mourut. L'enfant, qui avait alors 12 ans, fut recueilli par le charitable curé de son village, et l'excellent prêtre s'efforça honnêtement de faire répéter à ce garçon au large front, apathique et taciturne, les leçons qu'il n'arrivait pas à retenir à l'école. Mais ses tentatives demeurèrent vaines. Mirko fixait d'un œil vide les caractères d'écriture qu'on lui avait déjà expliqués 100 fois. Son cerveau fonctionnant avec effort, était impuissant à s'assimiler aucune des notions les plus élémentaires. À 14 ans, il s'aidait encore de ses doigts pour compter, et quelques années après, il ne lisait encore un livre ou un journal qu'au prix des plus grands efforts. On eût pu dire, cependant, qu'il y mettait de la mauvaise volonté ou de l'entêtement. Il faisait avec docilité ce qu'on lui ordonnait, portait l'eau, fendait le bois, travaillait au champ, nettoyait la cuisine, bref, il rendait consciencieusement, bien qu'avec une lenteur exaspérante, tous les services qu'on lui demandait. Mais ce qui chagrinait surtout le bon curé, c'était l'indifférence totale de son bizarre protégé. Il n'entreprenait rien de son propre chef, ne posait jamais une seule question, ne jouait pas avec les garçons de son âge et ne s'occupait jamais spontanément, si on ne lui demandait rien. Sitôt sa besogne finie, on voyait Mirko s'asseoir quelque part dans la chambre, avec cet air absent et vague des moutons, au pâturage, sans prendre le moindre intérêt à ce qui se passait autour de lui. Le soir, le curé, allumant sa longue pipe rustique, faisait avec le maréchal des logis ses 3 parties d'échecs quotidiennes. L'adolescent approchait alors de la table sa tignasse blonde et fixait en silence l'échiquier, avec des yeux qu'on croyait endormis et indifférents, sous leurs lourdes paupières. Un soir d'hiver, tandis que les deux partenaires étaient plongés dans le jeu, on entendit tinter de plus en plus près les clochettes d'un traîneau qui glissait à fond de train dans la rue. Un paysan, la casquette blanche de neige, entra précipitamment, demandant au prêtre s'il pouvait venir sur le champ administrer l'extrême onction à sa vieille mère qui se mourait. Le curé le suivit sans tarder. Le maréchal des logis, qui n'avait pas encore vidé son verre de bière, ralluma encore une dernière pipe et se mit en devoir de renfiler ses lourdes bottes pour s'en aller, lorsqu'il s'aperçut tout à coup que le regard de Mirko restait obstinément fixé sur l'échiquier et la partie commençait. « Eh bien, veux-tu la finir ? » dit-il en plaisantant, car il était persuadé que le jeune endormi ne saurait pas déplacer un seul pion correctement sur l'échiquier. Le garçon leva timidement la tête, fit signe que oui, et s'assit à la place du curé. En 14 coups, voilà le maréchal des logis battu, et en plus, obligé de reconnaître qu'il ne devait pas sa défaite à une négligence de sa part. La seconde partie tourna de même. « Mais c'est l'âne de Balaam !» s'écria l'ecclésiastique stupéfait lorsqu'il rentra. Et il expliqua au maréchal des logis, moins versé que lui dans les Écritures, comment, 2000 ans auparavant, semblable miracle s'était produit, une créature muette ayant soudain prononcé des paroles pleines de sagesse. Malgré leur avancée, le curé ne put réprimer son envie de se mesurer avec son protégé. Mirko le battit lui aussi aisément. Il avait un jeu lent, tenace, imperturbable, et ne relevait jamais son large front penché sur l'échiquier. Mais la sûreté de sa tactique était indiscutable. Ni le maréchal des logis, ni le curé ne parvinrent, les jours suivants, à gagner une seule partie contre lui. Le prêtre, qui connaissait mieux que personne le retard de son pupille dans d'autres domaines, devint extrêmement curieux de savoir si ce don singulier se confirmerait face à des adversaires plus sérieux. Il conduisit Mirko chez le barbier du village, fit tailler sa tignasse couleur de paille pour le rendre plus présentable, après quoi il l'emmena en traîneau à la petite ville voisine. Il connaissait là quelques joueurs d'échecs enragés, plus forts que lui, et toujours attablés dans un coin du café de la Grand Place. Quand le curé entra, poussant devant lui ce garçon de 15 ans, aux cheveux blonds, aux joues rouges, les épaules couvertes d'une peau de mouton retournée, et chaussé de grosses bottes lourdes, les habitués ouvrirent de grands yeux. Le jeune gars resta planté là, le regard timidement baissé, jusqu'à ce qu'on l'appelât à l'une des tables d'échecs. Il perdit la première partie, n'ayant jamais vu son excellent protecteur pratiquer ce qu'on appelle l'ouverture sicilienne. La seconde fois, il faisait déjà partie nulle contre le meilleur joueur de la société, et dès la troisième et la quatrième, il les battait tous l'un après l'autre. C'est ainsi qu'une petite ville de province yougoslave fut le théâtre d'un événement des plus palpitants et que ses notables au grand complet assistèrent au début sensationnel de ce champion villageois. À l'unanimité, on décida de retenir en ville le jeune prodige jusqu'au lendemain pour pouvoir informer de sa présence les autres membres du club et surtout pour prévenir dans son château le vieux comte Simskik, un fanatique du jeu d'échecs. Le curé, qui regardait son pupille avec une fierté toute nouvelle, ne pouvait cependant pas, malgré la joie de cette découverte, négliger ses devoirs dominicaux. Il se déclara prêt à laisser Mirko à ces messieurs pour qu'il fît mieux encore ses preuves. Le jeune Chentovitch fut alors installé à l'hôtel aux frais des joueurs et il vit ce soir-là pour la première fois de sa vie un cabinet muni d'une chasse d'eau. Le dimanche après-midi suivant, dans une salle comble, Mirko demeura assis sans bouger 4 heures durant, devant l'échiquier et sans prononcer une parole ni même lever les yeux. Il vainquit tous ses adversaires. Quelqu'un proposa une partie simultanée. On eut 1000 peines à expliquer au rusto qu'on entendait par là le faire jouer seul contre plusieurs partenaires. Mais sitôt que Mirko eut compris le principe, il s'exécuta sans retard, alla lentement d'une table à l'autre en faisant craquer ses gros souliers et pour finir, gagna 7 parties sur les 8. Alors commencèrent de longues délibérations. Bien que le nouveau champion ne fût pas un ressortissant de la ville au sens étroit du mot, l'esprit de clocher se réveilla très fort. Qui sait si la petite localité, dont l'existence était à peine relevée sur la carte, n'allait pas s'illustrer pour la première fois en donnant au monde un homme célèbre. Un impresario nommé Keller, qui s'occupait d'habitude seulement de fournir des chansons et des chanteuses au cabaret de la garnison, s'offrit à conduire le jeune phénomène à Vienne, chez un maître remarquable, disait-il, qui achèverait de l'initier à son art. Il fallait seulement que l'on voulût bien pourvoir aux frais d'un an de séjour dans la capitale. Le comte Simzik, qui, en 60 ans de pratique quotidienne, n'avait jamais rencontré d'adversaire aussi étonnant, signa un chèque sur le champ. Ainsi commença l'extraordinaire carrière de ce fils de batelier. En 6 mois, Mirko a appris tous les secrets de la technique du jeu d'échecs. Ses connaissances étaient étroitement limitées, il est vrai, et l'on devait en rire souvent dans les cercles qu'il fréquenta par la suite, car Shentovich ne parvint jamais à jouer une seule partie dans l'abstrait ou, comme on dit, à l'aveugle. Il était absolument incapable de se représenter l'échiquier en imagination dans l'espace. Il avait toujours besoin de voir devant lui, réelles et palpables, les 64 cases noires et blanches et les 32 figures du jeu. Même lorsqu'il fut célèbre dans le monde entier, il prenait avec lui un échiquier de poche, pour mieux se mettre dans l'œil la position des pièces s'il voulait résoudre un problème ou reconstituer une partie de maître. Ce défaut, négligeable en lui-même, décelait assez son manque d'imagination et on le commentait vivement dans le milieu qui l'entourait, comme on eût fait parmi les musiciens d'un virtuose ou d'un chef d'orchestre distingué qui se fût montré incapable de jouer ou de diriger sans avoir la partition ouverte devant lui. Mais cette particularité ne retarda nullement les stupéfiants progrès de Mirko. À 17 ans, il avait déjà remporté une douzaine de prix. À 18 ans, il était champion de Hongrie. Et enfin, à 20 ans, champion du monde. Les plus hardis joueurs, ceux qui par l'intelligence, l'imagination et l'audace dépassaient infiniment Shentovich, ne purent résister à son implacable et froide logique. Pas plus que Napoléon devant le lourd Kutosaw ou Hannibal devant Fabius Cuncator. Dont Tite Live rapporte qu'il présentait lui aussi, dans son jeune âge, des signes frappants d'indifférence et d'imbécilité. L'illustre galerie des maîtres de l'échiquier comprenait jusqu'alors les types de haute intelligence les plus divers, des philosophes, des mathématiciens, cerveaux imaginatifs et souvent créateurs. Pour la première fois, un personnage étranger au monde de l'esprit y figura désormais sous les traits de ce rustre lourdeau et taciturne, auxquels les plus habiles journalistes ne parvinrent jamais à soutirer le moindre mot qui pût servir à leur article. Il est vrai qu'on se rattrapait largement en anecdote sur son compte, car si la maîtrise de Shentovich était incontestable devant l'échiquier, il devenait dès l'instant qu'il le quittait, un individu comique et presque grotesque, en dépit de son cérémonieux habit noir et de ses cravates pompeusement ornées d'une perle un peu voyante. Malgré ses mains soignées aux ongles laborieusement polis, il gardait les manières et le maintien du jeune paysan borné qui balayait autrefois la chambre du curé de son village. Avec un maladroit et impudent cynisme qui faisait tour à tour la joie et le scandale de ses collègues, il ne songeait qu'à tirer tout l'argent possible de son talent et de son renom. Sa cupidité ne reculait devant aucune mesquinerie, fût-ce la plus ordinaire. Il voyageait beaucoup mais descendait toujours dans les hôtels de troisième ordre et acceptait de jouer dans les clubs les plus ignorés pourvu qu'il touchât ses honoraires. On le vit sur une affiche faire la réclame d'un savon et sans se soucier des moqueries de ses concurrents qui le savaient incapable d'écrire 3 phrases correctement, il vendit sa signature à un éditeur qui publiait une philosophie du jeu d'échecs. En réalité, l'ouvrage avait été écrit par un obscur étudiant de Galicie pour cet éditeur, habile homme d'affaires. Comme tous les têtus, Shentovich n'avait aucun sens du ridicule. Depuis qu'il était champion du monde, il se croyait le personnage le plus important de l'humanité. Et la conscience qu'il avait de ses victoires sur des hommes intelligents, brillants causeurs et grands clercs en écriture, le fait tangible surtout qu'il gagnait plus gros qu'eux dans leur propre domaine, transformèrent sa timidité native en une froide présomption qu'il étalait souvent grossièrement. « Mais comment un si prompt succès n'eût-il pas grisé une cervelle aussi vide ?» conclut mon ami, après m'avoir compté quelques traits caractéristiques de la puérile suffisance de Shentovich. « Comment voulez-vous qu'un petit paysan du Bana, âgé de 21 ans, ne soit pas ivre de vanité en voyant qu'il lui suffit de déplacer des pièces sur une planche à carreaux pour gagner en une semaine plus d'argent que tous les habitants de son hameau n'en gagneraient en une année de bûcheronnage et autres travaux éreintants ?» Et puis, n'est-il pas diablement aisé, en fait, de se prendre pour un grand homme quand on ne soupçonne pas le moins du monde qu'un Rembrandt, un Beethoven, un Dante ou un Napoléon ont jamais existé? Ce gaillard ne sait qu'une chose derrière son front barré, c'est que depuis des mois, il n'a pas perdu une seule partie d'échecs. Et comme précisément il ne soupçonne pas qu'il y a d'autres valeurs en ce monde que les échecs et l'argent, il a toutes les raisons d'être enchanté de lui-même. Ces propos de mon ami ne manquèrent pas d'exciter ma curiosité. Les monomaniaques de tout poil, les gens qui sont possédés par une seule idée, m'ont toujours spécialement intrigué, car plus un esprit se limite, plus il touche par ailleurs à l'infini. Ces gens-là, qui vivent solitaires en apparence, construisent avec leurs matériaux particuliers tout à fait remarquables. Aussi déclarai-je mon intention d'observer de près ce singulier spécimen de développement intellectuel unilatéral et de bien employer à cet effet les 12 jours de voyage qui nous séparaient de Rio. « Vous avez peu de chance, pourtant, de parvenir à vos fins !» me prévint mon ami. Personne que je sache n'a encore réussi à tirer de Shentovitch le moindre indice d'ordre psychologique. Derrière son insondable bêtise, ce rustre est assez malin pour ne jamais se compromettre. C'est bien simple, il évite toute conversation, hormis celle des compatriotes de sa région qu'il rencontre dans les petites auberges où il fréquente. Sitôt qu'il flaire un homme instruit, il rentre dans sa coquille. Ainsi, personne ne peut se vanter de l'avoir entendu dire une sottise ou d'avoir mesuré l'étendue de son ignorance, que l'on dit universelle. L'expérience devait justifier ses paroles. Pendant les premiers jours du voyage, je dus reconnaître qu'il était tout à fait impossible d'approcher Shentovitch, à moins de se montrer d'une grossière indiscrétion qui n'est ni de mon goût ni dans mes habitudes. Il se promenait parfois sur le pont promenade, mais c'était toujours d'un air absorbé et farouche, les mains croisées derrière le dos, dans l'attitude où un tableau bien connu représente Napoléon. Au surplus, il quittait les lieux avec tant de brusquerie et de précipitation après ses déambulations douteuses, qu'il eût fallu le suivre trop pour pouvoir lui adresser la parole. Dans les divers salons, on ne le voyait jamais ni au bar ni au fumoir. Le steward me confia discrètement qu'il passait le plus quart de son temps dans sa cabine à s'entraîner ou à répéter une partie devant un grand échiquier. 3 jours suffirent à me convaincre que sa tactique défensive était plus habile que ma volonté de l'aborder. J'en fus très contrarié. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de connaître personnellement un champion d'échecs, et plus je m'efforçais de m'en représenter un, moins j'y parvenais. Comment se figurer l'activité d'un cerveau exclusivement occupé sa vie durant d'une surface composée de 64 cases noires et blanches ? Assurément, je connaissais par expérience le mystérieux attrait de ce jeu royal, le seul entre tous les jeux inventés par les hommes qui échappent souverainement à la tyrannie du hasard, le seul où l'on ne doive sa victoire qu'à son intelligence ou plutôt à une certaine forme d'intelligence. Mais n'est-ce pas déjà le limiter injurieusement que d'appeler les échecs un jeu ? N'est-ce pas aussi une science, un art, ou quelque chose qui, comme le cercueil de Mahomet entre ciel et terre, est suspendu entre l'un et l'autre, qui réunit un nombre incroyable de contraires ? L'origine s'en perd dans la nuit des temps, et cependant il est toujours nouveau. Sa marche est mécanique, mais elle n'a de résultat que grâce à l'imagination. Il est étroitement limité dans un espace géométrique fixe, et pourtant ses combinaisons sont illimitées. Il poursuit un développement continuel, mais il reste stérile. C'est une pensée qui ne mène à rien, une mathématique qui n'établit rien, un art qui ne laisse pas d'œuvre, une architecture sans matière, et il a prouvé néanmoins qu'il était plus durable, à sa manière, que le livre ou que tout autre monument, ce jeu unique qui appartient à tous les peuples et à tous les temps, et dont personne ne sait quel dieu en fit don à la terre pour tuer l'ennui, pour aiguiser l'esprit et stimuler l'âme. Où commence-t-il, où finit-il ? Un enfant peut en apprendre les premières règles en ignorant, un ignorant s'y essayer et acquérir, dans le carré limité de l'échiquier, une maîtrise d'un genre unique, s'il a reçu ce don spécial. La patience, l'idée subite et la technique s'y joignent dans une certaine proportion très précise à une vue pénétrante des choses, pour faire des trouvailles comme on en fait dans les mathématiques, la poésie ou la musique, en se conjuguant simplement, peut-être, d'une autre façon. Jadis, la passion de la physionomie eût peut-être poussé un Gall à disséquer les cerveaux de champions d'échecs d'une telle espèce pour voir si la matière grise de pareil génie ne présentait pas une circonvolution particulière qui la distinguait des autres, une sorte de muscle ou de bosse des échecs. Combien l'eût intéressé ce cas d'un Shentovitch en qui ce don spécifique s'alliait à une paresse intellectuelle totale, comme un seul filon d'or qui court dans une énorme roche brute. Certes, je comprenais dans le principe qu'un jeu si particulier, si génial, peut susciter une sorte de matador, mais comment en concevoir la vie d'une intelligence tout entière réduite à cet étroit parcours, uniquement occupé à faire avancer et reculer 32 pièces sur des carreaux noirs et blancs, engageant dans ce va-et-vient toute la gloire de sa vie. Comment s'imaginer un homme qui considère déjà comme un exploit le fait d'ouvrir le jeu avec le cavalier plutôt qu'un simple pion et qui a inscrit sa pauvre petite part d'immortalité au coin d'un livre consacré aux échecs. Un homme donc, un homme doué d'intelligence, qui puisse sans devenir fou et pendant 10, 20, 30, 40 ans, tendre de toute la force de sa pensée vers ce but ridicule, acculer un roi de bois dans l'angle d'une planchette. Et maintenant qu'un pareil phénomène, un aussi singulier génie, ou si l'on préfère, un fou aussi énigmatique, se trouvait pour la première fois tout près de moi, sur le même bateau à 6 cabines de la mienne, je me voyais refuser la possibilité de l'approcher. Moi qui, pour mon malheur, ai toujours eu une curiosité passionnée pour les choses de l'esprit. Je me mis à inventer les stratagèmes les plus absurdes. Si je lui demandais une interview pour un prétendu grand journal, histoire de chatouiller sa vanité. Ou bien, si je lui proposais un lucratif tournoi en Écosse en misant sur l'appât du gain. Finalement, je me souviens de la méthode la plus éprouvée pour le chasseur, qui attire le coq de bruyère en imitant son cri à la saison des amours. N'était-ce pas en jouant aux échecs qu'assurément, on attirait le mieux l'attention d'un joueur d'échecs.
Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Guapo, Juanita y Chan Chan, en el mar servían arena. Como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
À vrai dire, je n'ai jamais été un sérieux artiste dans ce domaine, car je ne joue à ce jeu que pour mon plaisir. Je ne m'assieds et ne passe une heure devant un échiquier que pour me détendre l'esprit en refusant tout effort. Je joue au sens strict du terme, tandis que les autres, les vrais joueurs d'échecs, le pratiquent. Sérieux. Qu'on me permette ce néologisme audacieux. En outre, aux échecs, comme en amour, il faut un partenaire, et à ce moment-là, je ne savais s'il y avait à bord d'autres amateurs que nous. Pour les attirer au grand jour, je conçus un piège des plus simples. Tel un oiseleur, je m'installai au fumoir devant un échiquier avec ma femme qui joue encore moins bien que moi. Nous n'avions pas fait 6 coups qu'en effet, un promeneur puis un autre s'arrêtait là et nous demandait la permission de regarder, jusqu'au moment où quelqu'un me pria, comme je le désirais, de faire une partie avec lui. C'était un ingénieur écossais qui s'appelait McConnor et qui, me dit-on, avait amassé une grosse fortune en creusant des puits de pétrole en Californie. Trapu, la mâchoire carrée et les dents solides, il devait sans doute, en partie, la riche coloration de son teint à un goût prononcé pour le whisky. Sa surprenante largeur d'épaules, qui lui donnait l'allure d'un athlète, ne laissait pas de se faire sentir jusque dans son jeu, car Mac O'Connor était de cette espèce d'hommes qui ont réussi et sont si pleins d'eux-mêmes qu'ils ressentent comme une humiliation personnelle de perdre, fût-ce une inoffensive partie d'échecs. Habitué à s'imposer brutalement et gâté par ses réels succès, ce self-made man massif était si pénétré de sa supériorité qu'il regardait toute opposition comme un désordre et presque comme une injure. Il perdit la première partie de fort mauvaise grâce et se mit à expliquer avec une volubile autorité que sa défaite ne pouvait venir que d'un instant de distraction. À la troisième, il s'en prenait au bruit qu'on faisait dans la chambre voisine. Il ne perdit jamais sans réclamer la revanche. Cet acharnement d'amour-propre m'amusa d'abord, puis je n'y vis plus qu'une circonstance secondaire qui ne gênait en rien mon projet d'attirer à notre table le champion du monde. Le troisième jour, mon stratagème réussit, mais à moitié seulement. Tchentovitch nous avait-il aperçu par un hublot en se promenant sur le pont, ou bien honorait-il par hasard le fumoir de sa présence ce jour-là? Toujours est-il que nous le vîmes faire malgré lui quelques pas dans notre direction et jeter à bonne distance un œil de connaisseur sur l'échiquier où nous nous mêlions de pratiquer son art. Mac Connor était justement en train de déplacer un pion. Hélas, ce seul coup suffit à montrer à Tchentovitch combien nos efforts de dilettante étaient peu dignes de son royal intérêt. Avec le geste dont on repousse sans même le feuilleter un mauvais roman policier à l'étalage d'une librairie, Tchentovitch s'écarta de notre table et quitta le fumoir. Pesé et trouvé trop léger, me dis-je en moi-même, un peu froissé par ce regard sec et méprisant. Et, donnant cours à ma mauvaise humeur, je dis à Mac O'Connor : votre coup ne semble pas avoir enchanté le maître. Quel maître ? Je lui expliquai que ce monsieur qui venait de passer près de nous, en jetant sur notre jeu un regard désapprobateur, était Tchentovitch, le champion mondial des échecs. Eh bien, ajoutai-je, nous n'avons plus l'un et l'autre qu'à supporter cet affront et à nous accommoder de son auguste mépris sans en faire une maladie. Les pauvres bougres doivent faire leur cuisine à l'eau. » Mais ces paroles, prononcées avec détachement, eurent sur Mac Connor un effet surprenant. Il se montra aussitôt fort excité, et en oublia la partie commencée. La vanité lui gonflait les tempes. Il déclara qu'il n'avait pas eu la moindre idée que Tchentovitch fût à bord, et qu'il voulait absolument jouer avec lui. Qu'il n'avait encore jamais joué contre un pareil champion, sauf une fois, avec 40 autres, lors d'une partie simultanée qui avait été passionnante et qu'il avait du reste presque gagné. Il me demanda si je connaissais l'illustre personnage. Comme je répondais que non, il suggéra que je pourrais l'aborder et le prier de se joindre à nous. Je refusai, alléguant que Tchentovitch n'était pas, à ma connaissance, très désireux de se faire de nouvelles relations. D'ailleurs, où serait le plaisir d'une partie engagée entre un champion du monde et les joueurs de troisième classe que nous étions ? J'avoue que je n'aurais pas dû employer cette expression de joueur de troisième classe, devant un homme aussi vaniteux que Mac O'Connor. Il se rejeta en arrière, déclara sèchement que pour sa part, il ne croyait pas que Tchentovitch capable de décliner l'invitation courtoise d'un gentleman et qu'il allait s'en occuper. Sitôt que je lui eus, à sa requête, brièvement décrit la personne du champion, il s'élança impétueusement à sa recherche sur le pont, abandonnant avec une parfaite indifférence notre échiquier. Je m'aperçus une fois de plus qu'on ne pouvait guère retenir le propriétaire de ses remarquables épaules quand il avait un projet en tête. J'attendis avec un peu d'anxiété. Au bout de 10 minutes, Mac Connor revint, et il ne me parut pas beaucoup plus calme. « Eh bien, demandai-je. Vous aviez raison, me répondit-il, l'air un peu vexé. Ce monsieur n'est pas très aimable. Je me suis présenté, j'ai décliné mes qualités, il ne m'a même pas tendu la main. Je me suis efforcé alors de lui expliquer combien nous tous, à bord, serions heureux qu'il acceptât de jouer une partie simultanée contre nous. Il demeura raide comme un piquet, et me répondit qu'il regrettait, mais qu'il s'était expressément engagé par contrat vis-à-vis de son agent, à ne jamais jouer durant toute sa tournée sans toucher d'honoraires. Il se voyait donc obligé de demander au minimum $250 par partie. Je me mis à rire. J'aurais jamais pensé que pousser des pions d'un carreau noir sur un carreau blanc fût une affaire aussi lucrative. J'espère que vous lui avez poliment tiré votre révérence. » Mais Mac Connor garda tout son sérieux. « La partie aura lieu demain après-midi, à 3 heures, dans ce fumoir. J'espère que nous ne nous laisserons pas si facilement battre à plate couture. Quoi ? Vous avez accepté ces conditions ? M'écriai-je consterné. Bah pourquoi pas ? C'est son métier. Si j'avais mal aux dents et qu'il se trouvait un dentiste à bord, je ne lui demanderais pas de m'arracher une dent gratuitement. Tchentovitch a bien raison d'y aller carrément. Dans tous les domaines, les gens vraiment capables ont toujours su faire leurs affaires. Et quant à moi, j'estime que plus un marché est clair, mieux cela vaut. Je préfère payer cash plutôt que de compter sur les faveurs du sieur Tchentovitch et d'être obligé de le remercier pour finir. Après tout, à mon club, il m'est arrivé déjà de perdre plus de $250 en un soir, et cela sans avoir le plaisir de jouer contre un champion du monde. Pour un joueur de troisième classe, il n'y a pas de honte à être battu par un Tchentovitch. Je fus amusé de voir combien l'amour-propre de McConnor avait été profondément blessé par cette innocente expression de joueur de troisième classe. Mais puisqu'il était résolu à faire les frais de ce coûteux plaisir, je n'avais rien à objecter contre sa ridicule vanité puisqu'elle allait enfin me permettre de voir de plus près le singulier personnage qui excitait ma curiosité. Nous nous hâtâmes d'informer de l'événement les 4 ou 5 joueurs d'échecs que nous connaissions à bord, et pour être aussi peu gênés que possible par le flot des badauds, pendant le match prévu, nous fîmes réserver toutes les tables voisines de la nôtre. Le jour suivant, à l'heure convenue, notre petit groupe était au complet. Bien entendu, on donna à McConnor la place qui faisait face à celle du maître. Nerveux, l'Écossais allumait son cigare sur cigare, en consultant sans cesse la pendule. Mais notre illustre champion se fit attendre 10 bonnes minutes, ce qui ne m'étonna guère après les récits de mon ami, et puis il fit ensuite son apparition avec un insolent aplomb. Il se dirigea vers la table d'un pas tranquille et mesuré, sans se présenter. « Vous savez qui je suis et cela ne m'intéresse pas de savoir qui vous êtes », semblait-il nous signifier par cette impolitesse. Il se mit à organiser le jeu avec une sécheresse toute professionnelle. Comme une partie simultanée ordinaire était impossible, faute d'un nombre suffisant d'échiquiers, il proposa que nous jouions tous ensemble contre lui. Après chaque coup, il s'en irait à l'autre bout de la chambre pour ne pas troubler nos délibérations. Aussitôt que nous aurions joué, nous frapperions sur un verre avec une cuillère pour l'avertir, puisque malheureusement il n'y avait pas ici de sonnette. Si nous étions d'accord, on fixerait à 10 minutes le temps d'intervalle entre deux coups. Nous acceptâmes naturellement toutes ces propositions comme de timides écoliers. Le sort donna les noirs à Tchentovitch. En réplique à notre ouverture, il joua son premier coup sans même s'asseoir et s'enfuit aussitôt dans le fond de la pièce, à la place qu'il avait choisie pour attendre. Là, il feuilleta négligemment un journal illustré. Le récit de cette partie offrirait peu d'intérêt. Elle se termina bien sûr comme elle devait se terminer. En 24 coups, nous étions déjà complètement battus. Quoi d'étonnant à ce qu'un champion mondial ait aisément raison en un tournement d'une demi-douzaine de joueurs moyens ou à peine moyens. Ce qui nous était désagréable, c'était seulement la suffisance avec laquelle Tchentovitch nous faisait sentir de façon trop évidente sa supériorité. À chaque coup, il ne jetait sur l'échiquier qu'un regard en apparence distrait, nous considérait négligemment en passant, comme si nous n'étions nous-mêmes que d'inertes pièces de bois. Et cette attitude désinvolte faisait involontairement songer au geste avec lequel on lance un os à un chien galeux en se détournant. S'il avait un peu de délicatesse, me disais-je, il pourrait attirer notre attention sur les fautes que nous faisions, ou bien nous encourager d'un mot aimable. Mais non, la partie terminée, cette machine à jouer aux échecs prononça « Mat !» sans plus, puis resta là, immobile et muette, attendant de savoir si nous désirions recommencer. On est toujours dépourvu de moyens devant des épidermes aussi épais, et je m'étais déjà levé, signifiant par là que, pour ma part du moins, j'estimais terminer ce divertissement, lorsqu'à mon grand dépit, j'entendis McConnor dire à côté de moi, d'une voix tout enrouée, « Revanche !» Je fus presque épouvanté de son ton provoquant en ce moment. En ce moment, McConnor faisait en effet plutôt penser à un boxeur qui va asséner un coup qu'à un gentleman bien élevé. Était-ce la manière peu agréable dont nous avait traité Tchentovitch, ou simplement son ambition maladive et irritable? Toujours est-il que McConnor paraissait avoir changé de nature. Rouge jusqu'à la racine des cheveux, les narines dilatées, il transpirait visiblement et se mordait les lèvres. Un pli profond se creusait de sa bouche à son menton tendu en avant, l'air agressif. Dans ses yeux, je reconnus avec inquiétude cette flamme de folle passion qui ne saisit d'ordinaire que les joueurs de roulette quand, pour la 6e ou 7e fois, ils ont misé double sur une couleur qui ne sort pas. À cet instant, Je fus certain que cet amour-propre, forcené, allait lui coûter toute sa fortune, qu'il allait jouer et rejouer sans cesse, en simple ou en doublé, contre Shentovitch, jusqu'à ce qu'il ait gagné au moins une fois. Et si le champion persévérait, McConnor serait pour lui une mine d'or, dont il tirerait bien quelques milliers de dollars avant que nous ne soyons à Buenos Aires. Shentovitch demeura impassible. « Comme il vous plaira, » répondit-il poliment. « C'est à ces messieurs de prendre les noirs. » La deuxième partie débuta comme la première et la seule différence que notre cercle s'était élargi et animé de quelques curieux. McConnor regardait fixement l'échiquier. On eût dit qu'il voulait magnétiser les pièces pour les mener à la victoire. Je sentais qu'il eût volontiers donné 1000 dollars pour avoir le plaisir de crier « Matt » à son peu galant adversaire. Bizarrement, il nous communiquait malgré nous quelque chose de sa ténacité acharnée. Nous discutions chaque coup avec plus de passion qu'auparavant et nous mettions d'accord qu'au dernier moment pour donner à Shentovitch le signal qui le rappelait à la table. Nous étions parvenus ainsi, peu à peu, au 17e coup et, à notre propre ahurissement, la situation se présentait à notre avantage. Car, chose incroyable, nous avions réussi à amener le pion de la ligne C jusqu'à l'avant-dernière case C2. Il ne restait qu'à l'avancer en C1 pour faire une nouvelle dame. Nous n'étions, il est vrai, pas tout à fait rassurés devant une chance aussi apparente. À l'unanimité, nous soupçonnions Shentovitch qui, devant cet avantage que nous paraissions avoir conquis, voyait évidemment beaucoup plus loin que nous de nous tendre cet appât avec d'autres intentions. Mais nous eûmes beau chercher et discuter, nous ne pûmes découvrir le traquenard. Finalement, le délai de réflexion réglementaire touchant à sa fin, nous décidâmes à risquer le coup. Déjà, McConnor poussait le pion lorsque quelqu'un le saisit brusquement par le bras et lui chuchota avec véhémence « Pour l'amour du ciel, passe là !» Involontairement, chacun se retourna. Nous vîmes un homme d'environ 45 ans, au visage étroit et anguleux, que j'avais déjà rencontré sur le pont, et qui m'avait frappé par sa pâleur étrange, son teint presque crayeux. Il avait dû s'approcher de nous durant cette dernière minute, pendant que nous étions absorbés tout entiers par le problème à résoudre. Sentant nos regards posés sur lui, il ajouta très vite. « Si vous faites dame maintenant, il vous attaque immédiatement avec le fou en C1 et vous ripostez avec le cavalier. Mais entre-temps, il ira menacer votre tour en D7, avec son pion libre, et même si vous faites échec avec le cavalier, vous êtes perdu et battu en 9 ou 10 coups. » Ce sont à peu près les positions qu'avaient Algéchin et Bogol Dubow lors du grand tournoi du Pistian en 1922. Surpris, McConnor lâcha la pièce qu'il tenait dans la main et regarda émerveillé, comme nous tous, cet homme qui semblait tomber du ciel, tel un ange sauveur. Pour prévoir 9 coups d'avance qui feraient mat, ce devait être un professionnel distingué, peut-être même un champion concurrent de Shentovitch se rendant au même tournoi. Son arrivée et sa soudaine intervention à un moment aussi critique tenaient presque du miracle. Ce fut McConnor qui se ressaisit le premier. « Que me conseillez-vous » murmura-t-il fort excité. « N'avancez pas maintenant, évitez l'adversaire. Avant tout, éloignez le roi de la dangereuse ligne G8-H7. Votre partenaire attaquera probablement sur l'autre flanc, mais vous y parerez avec la tour C8-C4. Cela lui coûtera 2 coups, un pion et sa supériorité. Vous lutterez alors pion libre contre pion libre, et si vous vous défendez bien, vous ferez partie nulle. Vous ne pouvez pas tirer mieux de la situation. » Nous étions de plus en plus étonnés. La précision, autant que la rapidité de ses calculs, était déconcertante. On eût dit que cet homme lisait ses coups dans un livre. La chance inespérée que nous avions maintenant de faire, grâce à lui, partie nulle contre un champion du monde tenait de la magie. D'un commun accord, nous nous écartâmes pour mieux lui laisser voir l'échiquier.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Voilà, c'est la fin de l'émission lue et approuvée. Désolé pour les quelques bafouilles, mais comme je vous l'ai dit au début de l'émission, et ben ce soir, je découvrais le livre en même temps que vous. Lu et approuvé, c'est tous les mercredis soirs sur Canal Sud, de 23h30 à minuit et même un peu plus tard parfois. Vous pouvez nous retrouver également en podcast, en direct déjà sur internet, www.canalsud.net, et puis en podcast, vous pouvez télécharger nos émissions chaque semaine sur internet, c'est soit sur le site de Canal Sud, www.canalsud.net, ou sur le blog de l'émission, lu et approuvé en minuscule sans accent .noblogs.org. Vous trouvez sur le blog aussi quelques infos, les discographies, les bibliographies, les notes de l'éditeur. Et ce soir, nous avons lu pour vous, j'ai même pas donné la référence, Le joueur d'échecs, vous auriez sûrement reconnu pour celles et ceux qui l'ont déjà lu, mais c'est chouette de le redécouvrir. Stefan Zweig, Le joueur d'échecs, c'est un livre de poche. Voilà, et ben plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous sur Canal Sud, et à la semaine prochaine.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.